Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Georges Clemenceau est connu comme le créateur des brigades du Tigre à l'origine de la police judiciaire française. Mais le Tigre a été bien plus que le premier flic de France. Maire du 18e arrondissement de Paris pendant la Commune, député de la 3e République, ministre de l'Intérieur et président du Conseil, il a été l'un des plus grands hommes politiques de la Belle Époque. C'est aussi à lui qu'on doit la victoire à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est l'histoire de ce patriote épris de justice et d'ordre qui a écrit l'histoire de la France que je vais vous raconter dans un récit en deux parties. Clemenceau, le tigre patriote. Épisode 1. Le tigre est un animal politique. Nous sommes à Paris le 11 novembre 1918. Georges Clemenceau a 76 ans. Il est le président du Conseil, c'est-à-dire qu'il est le chef du gouvernement sous la Troisième République. Il est aussi le ministre de la guerre. Ce vieux rebelle s'avère un excellent chef de guerre parce qu'il n'a jamais cessé de croire en la victoire. Soudain, alors que le jour n'est pas encore levé, le téléphone sonne. C'est le maréchal Foch au bout du fil. Ça y est. L'armistice a été signé à 5h15 du matin. Les combats cesseront à 11h. Cet épouvantable bain de sang qui a tué presque 20 millions de personnes s'achève enfin. Clemenceau se prépare à la hâte et se rend à l'Assemblée nationale où il rend hommage aux soldats morts pour la France. Il gagne ensuite son bureau au ministère de la guerre. Une foule compacte s'est massée sous ses fenêtres pour venir acclamer « Le père, la victoire ». Clemenceau ouvre la fenêtre, invite la foule au silence d'un geste impérieux et ordonne « Criez avec moi, vive la France !» Au milieu du 19e siècle, la Vendée est encore blanche et catholique. Ça veut dire qu'elle est royaliste et très attachée à la religion. Georges Clemenceau naît en 1841 dans une famille bleue, c'est-à-dire républicaine. Il appartient aussi à la minorité protestante. Son père, Benjamin Clemenceau, est un médecin austère doublé d'un farouche républicain athée. Il éduque ses enfants à la dure. Il faut avoir un corps sain dans un esprit sain. Il leur transmet aussi ses valeurs. Georges vénère ce père qu'il craint et qu'il admire. C'est lui qui l'initie à la politique lors de déjeuners dominicaux mouvementés. Comme son père, Georges voit l'avènement du Second Empire comme un drame. Au départ, Louis-Napoléon Bonaparte avait été élu président de la République en 1848. Le 2 décembre 1851, il fait un coup d'État et devient empereur. C'est pendant le règne de Napoléon III que survient un traumatisme fondateur chez le petit Georges. Le 14 janvier 1858, Napoléon III et son épouse Eugénie se rendent à l'opéra de la rue Le Pelletier. Soudain, le couple entend trois explosions tout près de leur voiture. L'empereur et l'impératrice ont été protégés par le blindage de leur véhicule. Mais il y a plus de 150 blessés dans la rue autour d'eux. Cet attentat manqué entraîne l'arrestation des responsables et, en cascade, de républicains trop engagés. Le père de Georges Clemenceau est de ceux-là. Alors qu'il voit son père emmené par la police, Georges, âgé de 17 ans, promet à son père de le venger. Celui-ci lui répond « Travaille si tu veux me venger ». Georges Clemenceau n'oubliera jamais cette phrase. Toute sa vie, il travaillera énormément et il dira en repensant à ce moment qu'il a beaucoup travaillé. Grâce à ses amis haut placés, Benjamin Clemenceau est rapidement libéré et Georges, quant à lui, commence ses études de médecine comme tous les hommes de sa famille. Comme il est très intelligent, ses notes sont plutôt bonnes, mais il se fait remarquer par son mauvais comportement. La nuit, il fait le mur pour sortir avec des créatures, comme on dit à l'époque. Et le jour, l'anticlérical qu'il est, accumule les prises de bec avec le personnel hospitalier qui est alors largement composé de religieux et de religieuses. Malgré un parcours chaotique, Georges Clemenceau devient médecin. Mais c'est la politique qui le fait vibrer. À cette époque, la presse écrite est en plein essor. Des grands journaux comme le Figaro existent déjà et les petits journaux d'opinion pullulent. Clemenceau lance le sien. Il l'intitule « Le travail ». C'est son premier contact avec le milieu journalistique. Son sens de la formule fait rapidement de lui un éditorialiste de premier plan. Mais son engagement ne s'arrête pas à son journal. Il est aussi de toutes les manifestations en faveur de la République. Ça lui vaut 73 jours de prison qu'il considère comme un fait de gloire. C'est à cette période qu'il rencontre Auguste Blanqui, un révolutionnaire socialiste d'extrême gauche. Clemenceau s'en inspirera pendant longtemps. Le 2 septembre 1870, la défaite de Napoléon III à Sedan face aux Prussiens marque la fin du Second Empire. Deux jours plus tard, le 4 septembre, les Républicains proclament la Troisième République. Clemenceau est de ceux qui se trouvent au Palais Bourbon pour cet événement. Un gouvernement provisoire est alors mis en place et il y a urgence. La France est toujours en guerre contre la Prusse et il va bien falloir la défendre. Mais le pire est à venir. Quelques jours plus tard, le 17 septembre, les Prussiens font le siège de Paris. Jusqu'au 28 janvier suivant, rien ne rentre et rien ne sort de la ville. Les habitants ont faim au point de cuisiner les rats et de faire des rôtis avec les animaux de la ménagerie du Jardin des Plantes. À l'issue du siège, Georges Clemenceau obtient la mairie du 18e arrondissement de Paris. Montmartre est alors une colline très populaire, couverte de vignes et de maisonnettes branlantes. À ce moment-là, une partie des Parisiens est en ébullition. Pour faire simple, le petit peuple accuse le gouvernement de s'être couché devant les Prussiens et d'accepter une paix aux conditions intolérables. L'ennemi parade dans Paris et la France perd l'Alsace et la Lorraine. Le 18 mars 1871, Adolphe Thiers est alors le chef du pouvoir exécutif. Il commande à ses troupes d'aller récupérer les canons de la garde nationale qui se trouve sur la butte Montmartre. Une foule hétéroclite d'ouvriers, de femmes et d'enfants s'opposent aux soldats. Une partie d'entre eux se rallie au peuple mécontent et les généraux Thomas et le comte sont faits prisonniers par les premiers communards. Si le cœur de Clemenceau est avec les communards, sa tête est légaliste. Le maire les enjoint à ne pas fusiller les généraux arrêtés, mais il échoue à les sauver. Cette scène de violence et les insurrections sanglantes à suivre convaincront Clemenceau qu'il ne faut jamais laisser la rue semer le désordre. Lui qui, robespierriste dans l'âme, pensait qu'on pouvait justifier la violence du peuple, se rend compte que l'ordre protège en réalité les plus faibles. Après ce premier contact avec la vie d'édile, Clemenceau est élu député en 1876. À 35 ans, il va pouvoir participer activement à la politique du pays. Sous la Troisième République, le président est élu par les députés et les sénateurs. Celui-ci nomme son gouvernement et ce gouvernement est responsable devant les députés. Cela signifie que les députés peuvent faire tomber les gouvernements et cette pratique va devenir un véritable sport pour Georges Clemenceau, député radical siégeant à l'extrême gauche. Clemenceau devient l'un des meilleurs tribuns de l'Assemblée nationale. Il écrit ses discours avec minutie, mais les réimprovise au perchoir en fonction des réactions sur sa droite et sur sa gauche. D'un bon mot, il assassine ses ennemis. Quand le président Félix Faure meurt entre les bras de sa maîtresse à l'Élysée, c'est lui qui aurait eu cette expression célèbre. Il voulait être César, il est mort Pompée. Sa férocité est telle qu'on le surnomme le Tigre. Et le Tigre défend des idées progressistes. Il s'oppose notamment à Jules Ferry, grand partisan du colonialisme. L'homme qui a rendu l'école primaire obligatoire en 1882 est en accord avec la mission considérée comme civilisatrice des Européens qui justifie l'annexion de territoires en Afrique et en Asie. Cette vision raciste du monde scandalise Clémenceau. Il rappelle que c'est parce que les Allemands se voyaient comme supérieurs aux Français qu'ils voulaient prendre la France 12 ans auparavant. Quelque temps plus tard, le scandale de Panama va mettre un frein à la brillante carrière politique de Clémenceau. Il s'agit d'une énorme affaire de corruption liée au financement du canal de Panama qui relie l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Des proches de Clémenceau sont accusés d'avoir touché des malversations et la presse le soupçonne d'avoir pris sa part. C'est faux, mais la presse de droite et d'extrême droite se lance dans une campagne à charge contre lui. Des caricatures le montrent jonglant avec des bourses remplies de livres sterling. Résultat, il perd les élections, il n'est plus député. Clémenceau commence alors une traversée du désert, mais il a de la ressource. Il reprend son activité de journaliste. Il est le rédacteur en chef de L'Aurore au moment de l'affaire Dreyfus. C'est lui qui publie le célèbre « J'accuse » de Zola. D'ailleurs, c'est lui qui a l'idée de ce titre entré dans les annales. Clémenceau devient rapidement l'un des héros des Dreyfusards. Il soutient moins l'homme que l'idée qu'il se fait de la justice. Il sait que le capitaine Dreyfus a été inculpé pour espionnage sur la base de faux documents créés par les services de renseignement. C'est cette manipulation qu'il dénonce. Et il a raison, parce que le capitaine Dreyfus est gracié et réhabilité en 1906. Cette même année, à 65 ans, Clémenceau obtient son premier Marocain. Le voilà ministre de l'Intérieur. Il prend à peine ses fonctions qu'il doit déjà gérer une grève historique. Le 10 mars 1906, une explosion dans une mine de charbon du Nord-Pas-de-Calais fait plus de 1000 morts. Au bout de 3 jours, la compagnie des mines de Courrières cesse de rechercher les survivants. Sa priorité est l'exploitation du gisement. 2 semaines après les faits, une quinzaine de mineurs ressortent seuls des entrailles de la terre. La gestion de la crise, bien plus que l'accident lui-même, provoque la colère des mineurs. Un énorme mouvement social commence, c'est la grève, et elle est violente. En tant que ministre de l'Intérieur, c'est à Clémenceau de gérer les débordements. Le Tigre est favorable aux revendications des mineurs, mais ne tolère aucune violence. En s'attaquant aux fauteurs de troubles et à ceux qui molestent les mineurs non grévistes, Clémenceau hérite d'une réputation de briseur de grève. La réalité est plus subtile. Le ministre veut que la justice s'applique à tous et souhaite protéger les plus faibles. Voilà à quoi sert l'ordre selon lui. Cette vision des choses lui vaut des récriminations de la gauche. Le Tigre devient alors inclassable sur l'échiquier politique. Son amour de la justice pousse Clémenceau à s'atteler à un autre chantier, la réforme de la police dans une France dévastée par la délinquance. En 1907, il s'apprête à fonder l'ancêtre de la police judiciaire, les Brigades du Tigre. Pour découvrir la suite de ce récit consacré à Georges Clémenceau, je vous donne rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt !